Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je crois que c'est bon. Là.
Je crois que je vous assomme un peu là. Hein? Ah, Gérard a posé la question sur. Revenons tout de suite à la question, Gérard. Il disait voilà, il y a certaines gnoses qui nous présentent le Christ comme étant un grand maître ésotérique, initiatique, etc. Alors ça vient d'un livre qu'on appelle La vie secrète de Jésus-Christ, qui est un livre qui est édité par communiqué par les gens de la Rose-Croix, du moins de la mort plus exactement, je crois. Et donc ça fait partie du Nouvel Âge aussi, pareil, ça, sauf que c'est quand même très ancien. Alors grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère que Jésus n'est pas vraiment mort. Mais c'est exactement la même tradition qu'on trouve dans le Coran. Dans le Coran, on voit que Jésus, la mort de Sidna Issa sur la croix n'était qu'une apparence. Sidna Issa, c'est le prophète Jésus. La mort de Sidna Issa sur la croix n'était qu'une apparence. En fait, on a mis un homme à la place. Enfin bref, Jésus, lui, par ses pouvoirs, n'est-ce pas, a pu éviter justement la crucifixion. Et il est parti en Inde. Et en Inde, il a eu bien sûr des disciples, il a expliqué comment il fallait faire. Enfin bref, il y a un pan de la vie de Jésus-Christ qu'on ne connaît pas, qui est secret avec tout un enseignement, la vie cachée, la vie secrète de Jésus-Christ. Et vous voyez, là je crois que je ne triche pas en disant à peu près ce qu'ils expliquent. Et c'est à partir de là, bien sûr, qu'ils se disent bien sûr chrétiens à fond, mais que l'on ne peut pas dévoiler ces choses-là à tout le monde parce que les gens ne sont pas assez mûrs pour le savoir, le comprendre, le vivre, donc c'est réservé à quelques-uns. Et ça vient un petit peu de là. Alors, est-ce que, Gérard, je ne sais pas moi, la question exacte c'était qu'est-ce qu'il faut penser de ça, hein? Bon. Il faut penser que ça n'a rien à voir avec la vérité, puisque le Christ est mort pour celui qui a la foi. Pour celui qui a la foi, c'est facile, puisque le fait qu'il soit mort sur la croix fait partie de la foi. Le fait qu'il soit ressuscité et monté aux cieux tout de suite après fait partie de la foi. Le fait qu'il ne soit plus jamais apparu, sauf à part l'émonial, c'est la seule apparition du Christ, fait partie de la foi aussi. Donc, si on est croyant, c'est facile. On sait que c'est faux. Maintenant, si on n'est pas croyant, en plan philosophique, est-ce que ça a du sérieux? Est-ce que cette histoire a du sérieux au point de vue historique? La réponse au point de vue philosophico-historique, alors supposons que nous n'ayons pas la foi, hein, on regarde les fondements historiques de cette affaire, et on s'aperçoit qu'en réalité, le Christ, à sa mort, avait donné à chacun de ses apôtres une mission d'évangélisation du monde et des nations. Il y avait, par exemple, Saint Jacques, qui a été en Espagne, en Galicie. Oui. Il y a eu Lazare, qui était devenu prêtre, qui est celui qu'on a ressuscité, qui a débarqué au Sainte-Marie de la Mer avec Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marthe, Maxima et compagnie. C'est comme ça que Marie-Madeleine a terminé comme ermite dans une grotte près de Marseille à Sainte-Baume. Dans le même bateau, il y avait Zachée, qui s'était fait baptiser Amadour, et qui a terminé ermite dans les grottes de Rocamadour, Saint-Amadour, c'est Zachée. Donc les deux pécheurs de l'évangile ont terminé ermite en France. Pardon? Saint-Amadour, c'est Zachée. Lazare a terminé en France aussi prêtre. Maximin était disciple, un des 70 disciples, et est devenu évêque de c'était l'évêque du coin. Mais il y avait Thomas est parti en Inde. Saint Thomas, le fameux Saint Thomas, qui n'y croyait pas tant qu'il n'avait pas touché les plaies. Et Saint Thomas est parti en Inde, et il faut quand même se rappeler que les apôtres ont été plus ou moins reçus, plus ou moins bien reçus, mais dans l'ensemble, ils ont quand même donné un enseignement absolument spectaculaire. Et lorsqu'ils rencontraient des idoles, des démons, très très efficace dans toutes ces régions, et c'est immédiatement pulvérisé. C'est-à-dire que les apôtres s'approchent d'un temple pour que le temple s'écroule. Que les idoles s'effondrent en poussière, de manière totalement inexplicable. Il y a eu toutes sortes de choses comme ça. Bien, Thomas disait, je vous annonce le Christ. Voici ce que dit le Christ. Et il parle. Voici ce que dit le Christ. Donc, bien sûr que dans l'esprit de ces gens-là, partout où ces gens passaient, c'était le Christ qui parlait. Donc il y a un fondement historique, bien sûr, dans le fait que Jésus est passé en Inde, a fait un four pas possible. C'est Thomas, en fait. C'est Saint Thomas. Et Saint Thomas est celui des apôtres qui a fait le plus de miracles. Aucun des deux apôtres n'a fait plus de miracles que Saint Thomas. Alors c'est pour ça qu'il a laissé donc un souvenir invraisemblable en Inde, en raison de son pouvoir. Et c'est pour ça donc qu'on a voulu broder après historiquement par oral, si vous voulez, puis ça donnait ensuite un bouquin sur les pouvoirs et la transmission des pouvoirs de Jésus-Christ. Dans un livre secret. Donc il y a un fondement historique, si vous voulez, mais il est complètement manipulé de manière à faire orienter donc les gens du côté d'une voie initiatique, donc du côté de l'accession à des pouvoirs selon une méthode qui aurait été enseignée par le Christ, mais c'est évidemment diabolique, c'était évident. Oui, on va faire des émissions tout le temps là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question à poser? Oui. Oui. Si une femme, la question que pose les Sadducéens au Jésus, si une femme perd son mari, elle se marie avec un autre, l'autre meurt, elle se marie avec un autre, comme ça, sept fois. Et quand elle va aller au ciel, qui sera son époux? Qui sera son mari? Alors Jésus répond, au ciel, les hommes sont comme des anges. Ni mari. Tu te rappelles? En fait, les Sadducéens ont posé la question suivante, parce que les Sadducéens étaient réincarnationnistes. C'est pour ça qu'ils avaient un deuxième lieu sur la réincarnation. Hein. C'est quand Jésus leur dit, écoutez, en vérité, je vous le dis, vous êtes totalement dans l'erreur. C'est pas mal comme réponse pour les réincarnationnistes, c'est excellent. C'est excellent. Et oui, ils ne croyaient pas du tout à la résurrection. Alors, le sacrement de mariage est un, tous les sacrements d'ailleurs, n'ont de valeur que dans le pèlerinage terrestre. Tous les sacrements. Alors, il n'y a que trois sacrements qui laissent une trace dans l'éternité. C'est le sacrement de baptême, le sacrement de confirmation et le sacrement de l'ordre. Parce que ces sacrements-là ont pour objet, en plus de donner la grâce sanctifiante et une mission particulière, etc., ils ont en plus comme effet de mettre une marque dans l'âme qu'on appelle un caractère. Et au baptême, vous savez, on enlève le péché originel, hein, la pré-sainte Trinité descend et fait sa demeure et son ciel, son paradis dans cette âme. Trois, la grâce sanctifiante est donnée à l'état d'habitus sanctitatifs. Quatre, vous recevez un caractère, c'est-à-dire une puissance nouvelle, une capacité de poser des actes dans le domaine de l'intelligence pour pouvoir voir des choses que quelqu'un qui ne recevait pas le caractère du baptême ne verrait pas. Rappelez-vous mon histoire du lama tibétain. Le caractère du baptême vous donne une capacité que n'aura pas un autre. Ce caractère demeure, même pour ceux qui vont en enfer. Le caractère, le sacrement de confirmation donne aussi un caractère qui fait que vous êtes capable de non seulement d'avoir la foi, mais de communiquer la foi. Vous n'avez pas reçu le sacrement de confirmation. Il faut recevoir le sacrement de confirmation. Si vous voulez obéir à ce que demande le Saint-Père, savoir qu'il faut communiquer la foi. Le témoignage. On a une possibilité de communiquer divinement la foi. Pas humainement, justement, parce que communiquer la foi humainement, tout le monde va vous dire, tu m'emmerdes. Fous le camp. Allez. Et le caractère du sacrement de l'ordre est aussi éternel. Même pour ceux qui sont dans la réprobation éternelle. Le sacrement de mariage ne met pas de caractère, puisque c'est le lien entre les deux.
Oui, ça ne touche pas la relation. Donc, lorsque un meurt, la relation, aussitôt, n'appartient plus au pèlerinage terrestre.
Et donc, le sacrement est dissous, exactement comme lorsque les espèces eucharistiques s'évaporent, il n'y a plus de sacrement de l'Eucharistie. D'accord, c'est pas trop compliqué. Autrement dit, lorsque la femme se retrouve après au ciel, elle n'est la femme d'aucun des sept. Elle a été la femme des sept. Et le mariage sera vécu, le sacrement de mariage, vous comprenez bien, à force que je vous en parle, est pour pouvoir vivre les épousailles à leur sommet, et notamment les épousailles suprêmes avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'au ciel, on n'a plus besoin de passer par la médiation de mon mari ou de ma femme pour vivre des épousailles de l'Esprit Saint. On vit des épousailles de l'Esprit Saint. Et dans les épousailles de l'Esprit Saint, on est copain comme cochon avec son ancien mari et sa ancienne femme. Et on se dit en disant, purée, regarde, tu vois, ce soir-là, là, regarde, c'est à cause de ça qu'on a une telle grâce, c'est à cause de ça qu'on a telle couleur, tel parfum, telle splendeur actuellement. On vit un feu d'artifice perpétuel qui est sous cette modalité-là parce que, tac, ce soir-là, regarde, on avait choisi de méditer dans la relation conjugale, le mystère de la sponsalité numéro 4. Voilà, on peut faire un petit programme de mystique spontane par le corps. C'est très intéressant. C'est fulgurant le mariage. C'est extraordinairement intéressant le mariage. C'est très très beau. C'est pour ça que les gens qui disent qu'on ne se sentirait pas dans le mariage sont des imbéciles. Comme s'il n'y avait pas cette croix dans le mariage, par exemple. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre la mystique spontane de Nouvel Adam, Nouvelle Ève. Vous voyez, au moment de la croix, par exemple. Fout le camp. Il allait toute seule, démerde-toi. Ben, c'est pas drôle. Voilà le mystère de compassion. C'est un arrachement invraisemblable. Est-ce qu'il y a une autre question?
C'est fini.
Bon, tu vas pas arrêter de parler.
Mais pour le bien. On nous a dit tout à fait le contraire l'an dernier en Terre Sainte.
Qui vous a dit ça?
Daniel. Notre vocation bonhomme. Il a parlé de la vocation bonhomme. C'est sans doute différent.
Alors, le bonheur. Notre vocation. N'oubliez pas. Il y a deux moyens par lesquels nous pouvons rejoindre Dieu, c'est-à-dire notre bien. Dieu n'est pas le bonheur. Dieu, c'est le bien en soi. Et nous avons notre vocation, c'est Dieu. Donc notre vocation, c'est le bien en soi. Ça, alors là, c'est indéracinable, irrenversable. Si quelqu'un veut me prouver le contraire, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup. Parce que je serais très intéressé de savoir comment on pourrait dire une chose pareille. Alors vous me direz, mais le bonheur et le bien, c'est la même chose. Vous êtes sûr? Même Marie-Caroline est d'accord avec moi. Le bonheur, c'est un état. C'est un état dans lequel on se trouve. En réalité, le point de vue ultime de l'amour, de notre relation par rapport au bien, je suis attiré par le bien, alors aussi, je suis attiré par l'autre, je suis attiré par celui que j'aime, qui exerce sur moi une attraction d'amour, je suis attiré par lui, et j'ai une tendance à m'échapper, j'allais dire, et de faire qu'il n'y ait plus que l'autre qui vit, et moi je suis complètement évaporé, liquéfié, pulvérisé dans l'amour, et plus que l'autre. Et une tendance à ça, je suis attiré par l'autre. Je vois qu'il est mon bien, il m'attire. Déjà là, il y a le bonheur. Non, je n'ai pas encore atteint. Je suis attiré par lui, je suis déjà dans le bonheur parce que je l'aime. L'amour, le bonheur est une conséquence de l'amour. Et pourtant, tandis que la conséquence de l'union qui est la fin de tout, le terme de tout. La vocation, nous sommes appelés à l'union totale. Le terme final, c'est la joie. C'est la béatitude, c'est pas le bonheur. L'union produit la joie. Donc vous voyez, d'ailleurs, au début, vous êtes attiré par l'autre, mais vous n'êtes pas encore uni par lui. Confondre en lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut d'abord que vous preniez conscience que vous l'aimez avant de pouvoir vous joindre à lui. La preuve, c'est que vous ne pouvez pas vous joindre à lui avant de choisir librement que celui que vous aimez sera toute votre vie. Donc le bien se transforme en fin. Quand le bien se transforme en fin, deuxième étape, je suis encore dans le bonheur, parce que je suis heureux d'avoir trouvé une finalité à toute ma vie. Toute ma vie, j'aimerais qui est le meilleur moyen pour atteindre une union parfaite. Je vais rentrer donc dans une phase de conseil. Je vais demander conseil. Je vais demander au père Daniel Orange, au père Patrick, à saint Thomas d'Aquin, au pape et tout. Comment on fait, à toute la tradition de l'Église, à l'enseignement infaillible de l'Église, comment est-ce qu'on fait pour se confondre, se liquéfier dans l'amour? Je vais prendre donc les meilleurs moyens, et notamment le sacrement. Bien sûr. Et une autre phase, là encore, au moment où je m'enseigne sur les meilleurs moyens, je suis dans le bonheur parce que je suis complètement, je vois que ça y est, le chemin est là. La vérité nous met dans un état de bonheur. Lorsque la voix s'ouvre dans moi, la porte s'ouvre, en plus, la porte s'ouvre, je vois que la porte s'ouvre comme ça. Alors, tu vois, alors tu t'engages, à ce moment-là, tu t'engages. Et tu fais un acte, tu choisis justement, le fameux choix que tu fais. Tu le choisis. Et ensuite, encore, il y a encore une étape. Il ne suffit pas de le choisir, il faut, une fois que tu l'as choisi, tu te donnes. Tu vois, tu le choisis le jour du mariage, à 3h de l'après-midi, tu te donnes à lui, en général pas le soir parce qu'on est crevé. Tu fais la première messe le surlendemain. Donc tu t'engages, l'impérium, on dit. C'est une messe, puisque c'est un sacrement. Et j'ai un pouvoir sacerdotal qui fait que si je le fais dans l'intention de l'Église, les cieux se déchirent, le Christ descend, s'incarne. Et irradie toute l'Église par la médiation du pouvoir sacerdotal que j'ai. Donc c'est une messe. Messe, ça veut dire mission. Donc le Père envoie son Fils de manière sacramentelle, incarnée, avec fécondité universelle. C'est ça une messe. Missa est. Ité missa est. À la fin, je vais dire ité missa est. Vous vous endormez. Très très beau. D'ailleurs, vous pouvez aussi prendre les quatre prières eucharistiques. Oui, ça aussi, très très beau. Voilà, 30 manières spiritualité différentes. C'est une variation extraordinaire. Quatre prières eucharistiques, vous verrez que chaque mot correspond. Pour la messe du sponsal. C'est extraordinaire. Alors si vous vibrez de manière contemplative, il n'y a pas de danger. Il y aura un renouvellement constant, perpétuel, absolument extraordinaire. C'est pas du tout la même chose, vous avez remarqué, quand on dit la prière eucharistique numéro 1 et la numéro 4, par exemple. C'est en vie très contemplatif, on vit tout à fait autre chose. Donc vous voyez, vous êtes arrivé ici au moment où vous engagez par l'impériaux, à un moment où vous dites, allez, j'y vais. C'est un acte d'intelligence. À ce moment-là, vous conjoignez et vous trouvez l'unité, et l'unité produit la joie. Donc vous voyez, cette structure de l'amour, et on est fait pour la joie, on est fait pour la joie, on est fait pour le bien. On est fait pour le bien, vous voyez. C'est plus exact de dire qu'on est fait pour le bien, ou pour la joie, qui est le terme, ou qui assume toutes les autres étapes, à la rigueur, que pour le bonheur, parce que le bonheur, il est dans chacune. Les étapes. Or, il se trouve que quelquefois, on est incapable d'aimer. Par exemple, on est incapable de demander conseil. On va patauger. Et donc, vous voyez, vous n'atteignez pas votre bonheur. Vous n'atteignez pas la joie. Vous n'atteignez pas votre vocation. Et pourtant, vous avez un certain bonheur puisque vous aimez. Ce qui prouve bien que ce n'est pas votre vocation. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. La prédestination. Vous voulez bien attacher vos ceintures, ça pour la prédestination. Voilà, on fait une petite pause. Il n'y a qu'une seule prédestination, très rapidement. Il n'y a qu'une seule prédestination. C'est le Christ. Jésus est prédestiné, comme on le voit dans toute l'Écriture. Tout est concentré sur le Messie. Et dans l'éternité et la sagesse de Dieu, Dieu crée et prédestine l'ensemble de l'univers à être récapitulé dans le Christ. C'est ça la prédestination. La prédestination, c'est ça. D'accord ? Bon. Et nous, nous sommes prédestinés à coopérer, le terme théologique exact est participer à la prédestination du Christ. Donc dans la mesure où je participe à la prédestination du Christ, notamment par les sacrements, vous voyez, par exemple le sacrement de mariage, vous voyez comment ça fait, le sacrement de baptême, pareil, et tous les autres sacrements, dans la mesure où je participe à la prédestination du Christ, qui fait qu'il irradie l'ensemble de la création pour la récapituler en gloire, je rentre dans ma prédestination, dans ma vocation. Donc ma vocation consiste à trouver, à participer au maximum à cette extraordinaire vocation, mission prévue de toute éternité dans le Christ, par lequel le Christ s'incarne pour absorber, irradier, sauver, glorifier et récapituler tout l'univers dans sa gloire. D'accord ? Là, s'il avait fallu regarder plus précisément, j'aurais pris avec vous le chapitre 5 ou 6 de l'Apocalypse, on a regardé les 7 sceaux, l'ouverture des 7 sceaux de l'Apocalypse, qui sont une révélation sur ce que c'est exactement la prédestination. 7 modalités de la prédestination. Enfin, déjà, au moins, si tu vois qu'il y a une seule prédestination, c'est celle du Christ. Bon, les 2 erreurs à faire sur la prédestination, c'est celle de Calvin. Celle de Calvin, ben voilà, on est prédestiné, on est prédestiné. La prédestination dans le temps, tu vois. Toi, t'es prédestiné à ça. Toi, t'es prédestiné à ça. Pas du tout. Et c'est celle des jansénistes aussi, du côté catholique, c'est pareil. Quand Dieu, quand un petit enfant est en train de naître, Dieu l'a prédestiné à l'enfer. C'est pas ça du tout, la prédestination. La prédestination, si tu veux échapper à ça, tu vas considérer saint Thomas d'Aquin qui va dire, qui va parler de la prédestination de Jésus, du Christ. Et à partir de la prédestination du Christ, nous sommes tous prédestinés, nous sommes tous écrits sur le livre de vie, et comme le dit l'Apocalypse dans les 7 sceaux, puisque le livre de vie, c'est le livre fermé par les 7 sceaux, le livre de la prédestination. Il est écrit explicitement, gloire, honneur, louange, pour tous ceux qui ne seront pas, en tous ceux qui ne seront pas effacés du livre de vie, ce qui prouve que tout le monde est prédestiné à participer à la prédestination unique du Christ, mais qu'on peut être effacé du livre de vie par sa propre liberté, par son propre refus, qui montre bien que le péché suprême est toujours par omission et pas par action. On est effacé du livre de vie par omission. Les péchés par omission sont évidemment ceux qui nous réprouvent, tandis que les péchés par action sont des péchés de faiblesse. Que je viens de vous expliquer pour le mariage, d'ailleurs, vous voyez. Si vous faites par omission, ça me paraît infiniment plus grave que un simple adultère. Bravo Bernard, on applaudit Bernard pour sa conduite absolument exceptionnelle. Il m'attire. S'il m'attire, il est mon bien. Parce qu'il n'y a que le bien qui attire. Bah Dieu aussi. Il y a 2 finalités dans la nature humaine, c'est l'amitié et l'adoration. Point de vue philosophique, il trouve 2 finalités qui finalisent l'homme. L'amitié et la contemplation. Et la contemplation de Dieu.
Et j'en ai de l'eau.
Qui sont 2 finalités. Les 2 peuvent remplir une vie humaine. Ça peut structurer, mais non, mais dans le Christ. Mais non, la vocation chrétienne, c'est qu'au contraire, la vocation chrétienne, c'est que c'est Dieu et l'homme en un seul vocation. C'est en une seule vocation, parce que c'est le Christ qui s'incorpore à Guy, donc c'est Guy et Dieu enfant. C'est le sacrement. temps.
Et en même temps.
Les deux en même temps dans la vie chrétienne. En philosophie, les deux finalités sont séparées. L'amitié suffit à remplir une vie humaine, Dieu suffit à remplir une vie humaine, comme Plotin. Mais les deux ensemble, dans un seul mouvement, un seul élan, un seul donation d'acte, c'est uniquement dans la grâce chrétienne. C'est impossible humainement. C'est possible uniquement par la grâce.